Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Leur histoire commence en 1945, tandis que Jeannette, après sa fuite du camp de Ravensbrück, se fait embaucher comme serveuse à Stuttgart. Retenue quasi prisonnière par les tenanciers du restaurant, elle y tombe pourtant amoureuse de Philippe, un Hollandais qui vient déjeuner là tous les jours. Elle a 19 ans, lui 21. Ils ne parlent aucune langue commune, mais les regards suffisent. Leur histoire est racontée par Anne Rioux dans « Là-bas si j'y suis ». Une nuit, Jeannette tente de s'échapper, saute par la fenêtre et se brise les jambes. Chaque jour à l'hôpital où il lui rend visite, Philippe lui apporte des fleurs qui disent tout son amour. Une fois rétablie, Jeannette est rapatriée à Belfort. Philippe doit rentrer à Rotterdam. Les frontières sont fermées, les amants jurent de s'écrire, de se retrouver, de se marier. Pendant un an, plusieurs lettres par jour partent dans les deux sens, mais elles restent bloquées à la frontière. Sans nouvelles, Jeannette sombre dans le désespoir, puis épouse le premier venu. Deux mois après son mariage, un paquet contenant les lettres de Philippe arrive par la poste. Trop tard, Jeannette coupe court. Elle ne garde de son amant hollandais qu'une minuscule photo avec une cravate, adossée à une rambarde et la fière allure. Plusieurs dizaines d'années passent au cours desquelles le premier mari de Jeannette meurt et elle divorce du second. Elle retrouve alors la trace de Philippe, mais c'est lui qui est marié. Il ne donne pas suite. 3 ans plus tard cependant, sa femme meurt à son tour. Philippe envoie un mot à Jeannette, qu'il a fait traduire par sa petite fille. Après 49 ans, les amoureux se donnent rendez-vous sur le quai de la gare de Belfort. Philippe pose ses valises, enlace Jeannette et lui dit « Tu as toujours les yeux de tes 19 ans ». Philippe et Jeannette se marient le 12 août 1993 à Mulhouse, un demi-siècle après s'être quittés. Ils ne parlent toujours pas de langue commune. C'est Marie-Louise, une amie de Jeannette, qui leur sert d'interprète pour cette belle histoire. Après leur mariage, Marie-Louise, d'ailleurs, s'installe en dessous de chez eux pour plus de commodité dans la traduction. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, ce sont deux autres histoires d'amour perdues de vue, de retrouvailles, d'espoir réapparues. Elles sont racontées par Maude de Carpentier.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Colette. J'ai actuellement 86 ans et j'ai retrouvé Pierre il y a 5 ans. C'est lui qui avait 86 ans et moi je n'en avais que 81 à l'époque. Je l'ai connu quand j'avais 16 ans et lui venait d'être reçu à Polytechnique et faisait son service militaire dans la marine. Nous avions l'occasion de nous rencontrer soit au club nautique pour faire de la voile, je faisais beaucoup de voile à l'époque, ou l'été dansant du cercle naval, des pique-niques, des sorties à la plage en petits groupes, des surprise parties. Et je dois reconnaître que j'étais très attirée par ce garçon qui était gentil, blond aux yeux bleus, avec un visage agréable, de l'allure, d'un joli sourire. Et lui aussi avait l'air assez attiré par moi, mais nous étions très timides et très inexpérimentés. On se faisait des petits baisers quand même, sur les lèvres. On avait du plaisir à danser un slow, mais c'était très limité, comme dans la gestuelle, disons. Moi, je sais que j'étais amoureuse et que je me disais, oh là là, s'il pouvait me demander de m'épouser, je dirais oui tout de suite. Alors que je n'avais aucune expérience de la vie et que j'étais vraiment un peu naïf. Mais bon, il n'était pas mûr, l'idée ne lui est même pas venue et c'est pas plus mal comme ça. Et donc, cette relation n'a pas duré longtemps. Il n'a passé qu'un mois ou deux à Toulon. Il a quitté Toulon pour rentrer à l'école polytechnique. Nous nous sommes écrits pendant longtemps. J'avais d'ailleurs gardé ses lettres. Ça remplissait toute une boîte à chaussures, des lettres qu'on avait échangées, où j'étais au courant de sa vie. Il était parti en Amérique faire une école des pétroles, etc. Et entre-temps, j'ai constaté, parce que j'avais gardé des petits carnets où j'écrivais tout ce que je faisais, que les années suivantes, en 1949, en 1950 et même en 51, je l'avais revu et on était allés danser ensemble. On se téléphonait, on allait se voir. Donc, je n'arrivais pas à l'oublier. nous sommes mariés chacun de notre côté en 1953. Et je dois dire que quand je me suis mariée avec Jean, j'étais très amoureuse de Jean et j'avais complètement oublié Pierre. Il n'en était plus question. D'ailleurs, entre-temps, j'avais eu un petit flirt avec Bernard, un petit flirt avec... comment il s'appelait l'autre ? Qu'est-ce que j'ai eu ? Bernard qui a compté ? Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Enfin, d'autres garçons qui ont tenu une petite place dans ma vie, en tant qu'amoureux, si on peut dire. Et... quand je me suis mariée avec Jean, j'étais très amoureuse de lui. Malheureusement, la marine à cette époque-là, c'était la vie d'un marin, n'était pas facile. On s'est fiancés, il est parti en Indochine. On s'est mariés, il est reparti en Indochine. On a été beaucoup séparés. Mais nous nous écrivions tous les jours, tous les jours, tous les jours, toute notre vie. Par la suite, nous avons eu une vie très agréable tous les deux, merveilleuse. Nous avons vécu 40 ans ensemble, d'une entente parfaite. Et quand mon mari a eu un poste à Paris en fin de carrière, donc peut-être 20 ans après, au moins, nous avons eu l'occasion de retrouver Pierre et sa femme. Et Jean savait que quand j'étais très jeune, j'avais été amoureuse de Pierre. D'ailleurs, il était un peu jaloux, mais il ne pouvait pas être jaloux parce qu'il n'y avait vraiment pas lieu de l'être. En fait, il faudrait que je puisse dire que pendant les 40 ans où j'étais mariée, quand même, quand je passais à Paris, on se téléphonait quelquefois et on allait boire un pot ensemble dans un bar pour raconter un petit peu ce qu'on devenait. Oui, et alors ça, évidemment, c'est un petit peu gênant que je le raconte parce que je ne le disais pas à mon mari. Je ne faisais rien de mal. Mais j'ai pensé que ça ne lui aurait peut-être pas plu que je lui dise que j'avais téléphoné à ce vieux copain pour prendre des nouvelles. Mon mari est mort au moment où nous allions fêter nos 40 ans de mariage, et brutalement. Et je me suis retrouvée donc toute seule. Et là, j'ai été aidée par un ami que nous connaissions depuis mon mariage, qui s'est petit à petit introduit dans ma vie pour me rendre des services par gentillesse, par amitié. Et petit à petit, cette amitié est devenue beaucoup plus tendre. Et j'ai vécu une vingtaine d'années avec lui. Malheureusement, il est mort d'un cancer à son tour. Je l'ai soigné jusqu'à sa dernière limite. Et quand il a été enterré, je pensais que ma vie était finie, ma vie de femme, disons. J'avais deux belles histoires d'amour, vraiment, ces 20 ans avaient été aussi une parfaite entente, très, très sereine, très agréable. Mais là-dessus, je téléphone, parce que j'avais gardé son numéro de téléphone, à cet ami Pierre. Je savais qu'il avait une maison sur la Côte d'Azur, où j'étais allée autrefois, et donc je lui téléphone à tout hasard pour lui donner de mes nouvelles, lui dire que j'étais seule, et je pensais qu'il était seul aussi. Un jour, j'ai appris que sa femme était morte d'un cancer. Bon, j'ai dit, tiens, je viens passer 2 jours chez toi. Voilà. Et je m'invite chez lui, et les choses se sont passées de façon la plus naturelle du monde. On s'est retrouvés ensemble. Eh bien, la première chose qu'on a fait, on s'est embrassés. Il était très heureux de me retrouver, puis moi aussi, finalement, ça nous paraissait curieusement presque naturel. Presque naturel, alors que ça faisait 40 ans que je lui téléphonais, que je le voyais de façon très platonique, complètement. Donc on s'est embrassés. J'ai repensé au jeune homme que j'avais connu à 16 ans, quand il en avait 20. Là, j'ai pas retrouvé le vieux monsieur, j'ai retrouvé le jeune homme qui avait vieilli. Mais malheureusement, nous étions trop âgés à l'époque pour vraiment être amoureux. Il était impensable d'être amoureux à cet âge-là parce que c'était devenu quand même un vieillard. Physiquement, j'avais en face de moi un homme bien conservé, certes pour son âge, mais j'avais un vieux monsieur. Et un vieux monsieur, c'est pas attirant physiquement, pas de doute. Alors, est-ce que je suis mieux conservée ? Est-ce qu'il était plus indulgent ? Mais lui, apparemment, aurait bien vu les choses comme ça, amoureux. Mais Moi, beaucoup moins, beaucoup moins. Mais d'un autre côté, je trouvais tellement amusant de se retrouver, et tellement plaisant en plus, parce que il y avait quand même beaucoup d'affection entre nous, puis de souvenirs, que nous avons décidé de nous revoir souvent. Et donc, ça fait 5 ans que quand je vais à Paris, je descends chez lui, et que quand il vient sur la côte, je vais le voir, on passe des moments ensemble, très agréables. On a même fait des voyages ensemble, on a fait tout un tour de Bretagne en voiture, entre nous. Il y a beaucoup plus qu'une amitié. C'est une amitié amoureuse, tendre. Et je pense quand même que le fait des souvenirs communs qu'on avait ensemble a facilité beaucoup le rapprochement de deux personnes âgées qui ne sont plus qu'elles étaient aussi désirables qu'elles étaient jeunes. Donc, je ne regrette rien. Je ne regrette rien.
Je m'appelle Jean, je vais avoir 60 ans et avec mon épouse, nous sommes installés dans la commune de Havez depuis 3 ans maintenant. Alors, après avoir brillamment raté mon bac en 1976, mes parents m'ont envoyé dans une école où ma tante était prof. Donc, je suis parti à Beaune et je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie dans une école qui était mixte. Donc bah voilà, je suis tombé amoureux de Caroline assez vite en début d'année. On a mis un peu de temps parce que bah voilà, surtout moi j'étais pas très dégourdi à se déclarer. Moi j'étais dans un foyer de jeunes travailleurs, donc bon, c'était pas un lieu très sympathique. Elle habitait une belle maison à quelques kilomètres de Beaune, donc c'était souvent là qu'on se retrouvait et qu'on travaillait nos cours et enfin voilà. Bon, la plupart du temps, on était dans sa chambre. Et un beau jour, je lui dis, bah oui, je t'aime, et que j'en peux plus de pas te le dire, et elle m'est tombée dans les bras, et voilà. C'était super, comme un premier baiser, enfin voilà, c'était pour moi le début d'une belle histoire d'amour qui commençait, l'histoire d'une vie, enfin, il y avait tout ça dans ce premier baiser, enfin, c'était pas juste un baiser comme ça, quoi. C'était ma première vraie amoureuse. J'avais déjà eu des coups de cœur, mais qui étaient des coups de cœur. C'est-à-dire que voilà, je m'enflammais et ça retombait aussi vite et je déclarais rien. Et voilà. Mais avec Caroline, c'était vraiment totalement différent. Pour moi, c'était une évidence. Enfin, voilà, c'était. Je ne sais pas quoi rajouter d'autre. Une évidence. Voilà, puis ça se passait plutôt bien. Dans notre petite bande de copains, on était, voilà, c'était Caroline et Jean. Et puis, donc il y a eu les vacances de Noël. Donc moi, je suis rentré dans ma maison natale. Et puis quand je suis revenu, Caroline m'a dit que c'était fini. Elle a pas vraiment tenté de s'expliquer. J'ai pas vraiment posé de questions parce que j'ai pris ça pour un rejet de ma personne. Donc voilà, il n'y avait pas besoin de discuter. Mais dans mon intime de moi-même, j'étais vraiment convaincu que c'était la femme de ma vie. Voilà. Et comme elle m'avait rejeté, c'était quand même une grosse claque. Elle part faire ses études à Paris. Moi, je retourne en Touraine et je fais mes études. Voilà. Bon, il se trouvait que nos mamans se connaissaient d'un pèlerinage qu'elles avaient fait ensemble ou je sais pas quoi. Et donc, quand Caroline s'est mariée, maman a reçu un faire-part. De toute façon, pour moi, la vie avec Caroline était fichue. C'était perdu. Donc, elle a trouvé quelqu'un, tant mieux, et pourvu qu'elle soit heureuse. Voilà, c'est une porte qui se cadenasse. Mais de temps en temps, je vérifiais que le nom de famille de Caroline était toujours associé à la commune où je l'avais rencontrée. Et puis un jour, ce nom a disparu. Donc je me suis dit, je l'ai vraiment perdu. Je savais qu'elle était allée à Paris, qu'elle avait fait des études de philo, mais voilà, c'est tout ce que je savais. Eh ben, moi, j'ai fait des brillantes études que j'ai bien ratées, j'en ai fait d'autres. Enfin bon, j'ai réussi à avoir une licence de géographie. Pendant ce parcours, j'ai croisé Isabelle. Là aussi, j'étais sûr que c'était la femme de ma vie. Et voilà. Et puis, bon, on a continué notre chemin ensemble. On s'est mariés. On a eu 3 enfants. On a fait notre vie comme ça jusqu'au moment où arrive Alors, une remise en cause qui, pour moi, a été un accident de moto. Grave, oui, parce que j'étais, comme il disait à l'hôpital, polytraumatisé. Pour moi, ça a été un choc en me disant pourquoi je me suis cassé. Qu'est-ce que ça veut dire, cet accident? Et donc, c'est là où j'ai commencé une psychothérapie pour essayer. Et le but de cette psychothérapie, ça a vraiment été de comprendre pourquoi j'ai eu cet accident. Et c'est à partir de là où je me suis rendu compte que la vie que je menais ne me correspondait plus. Et j'ai pas réussi à prendre le virage avec Isabelle. Et je me suis remis à penser à Caroline. C'est là où Internet est magique. Bah, j'ai mis son prénom et son nom de famille sur Google, qui m'a ressorti une page du site d'une association de femmes divorcées. Donc voilà, finalement, un jour, j'ai envoyé un mail à Caroline en lui demandant « Est-ce que tu es bien la Caroline qui était aux 5 heures en telle année ?» Elle m'a répondu « Bah oui, je suis étonné d'avoir tes nouvelles, qu'est-ce que tu deviens ?» Et donc là, on a commencé à s'écrire énormément, à se raconter nos vies, à se raconter nos malheurs, par quoi on était passés l'un et l'autre. Et ça a duré plusieurs mois, jusqu'à ce que je lui dise « Bah, j'aimerais te revoir ». Et puis elle m'a dit oui. Comme voilà, on avait peur de ne pas se reconnaître, moi arrivant à la gare Depardieu, c'est quand même une grande gare, il y a beaucoup de monde, donc je lui avais envoyé une photo. Elle m'a tout de suite reconnu. On s'est fait une bise amicale. Je crois, c'est tout, oui. J'ai trouvé changé, parce qu'avant, elle avait des grands cheveux longs qu'elle n'avait plus, et des cheveux beaucoup plus courts, comme font souvent les femmes de son âge, où les cheveux raccourcissent avec l'âge. Autrement, non, c'était la même. Bon, qu'elle avait pris des années, oui, mais non, c'était la Caroline dont je me rappelais. Comment on évolue en 32-33 ans, enfin, je ne sais plus. Est-ce que ce qui nous avait unis au départ existe encore? Sous quelle forme? Est-ce qu'on va savoir quoi se dire? Est-ce qu'on n'a pas tellement échangé, on ne s'est pas tellement livré par écrit que on va se trouver gêné ou pas? Et puis finalement, non, c'était très fluide, très, très doux, très amical, très profond. Puis on a discuté, on a été se promener en ville, on est remonté à pied parce qu'on avait raté le dernier funiculaire. Enfin bon, on a discuté. On s'est quitté camarades, enfin amis. C'était une partie de notre enfance, de notre début d'âge adulte qui remontait à la surface pour nous deux. Et on s'était sentis quand même relativement proches. Et voilà. Et puis, quelques temps après, je lui annonce que j'ai pris ma décision de me séparer d'Isabelle, que je l'ai annoncé à Isabelle, que je l'ai annoncé à mes enfants. Et là, elle m'annonce que qu'elle aimerait bien me voir à Paris. Je dis d'accord. Donc on se voit et là, on tombe dans les bras de l'un de l'autre, mais comme amoureux, parce qu'en fait, elle s'était rendu compte que elle était amoureuse de moi, mais qu'elle ne voulait pas briser ma famille. Donc elle a attendu pour m'avouer ses sentiments que je lui ai dit que j'avais pris la décision de me séparer d'Isabelle. Et à partir du moment où elle me le dit, moi c'est évident. Mais oui, moi aussi. Et finalement, on s'est mariés il y a 2 mois. D'avoir juste semé une graine, ça a permis à cette graine de germer pendant toutes ces années et de faire que maintenant on peut se trouver. C'est même pas se retrouver, c'est se trouver.
La première fois que j'ai vu Stéphane, nous étions enfants, nous étions en CM2. Notre histoire d'amour, elle s'est vraiment déclarée lorsque nous sommes allés ensuite au collège. C'était en quatrième. Ça s'est passé à la piscine de Vernouillet, sur la terrasse. La terrasse, c'était une pelouse à l'époque. Et c'était en plein été. Je me souviens de ce premier baiser. Nous sortions du bassin, de la piscine. Nous passions le pédiluve. Nous sommes allongés sur cette terrasse de pelouse, parmi d'autres copains-copines. J'étais allongée au soleil et il s'est penché vers moi. J'ai ouvert les yeux et il m'a embrassée. Des yeux dans les yeux. Il me fascinait. Il était déjà plein de douceur, plein de tendresse. Et très très respectueux, infiniment respectueux. J'ai pris peur. Je ne savais pas ce que c'était que l'amour. Et je mettais un petit peu comme des couvertures, des voiles dessus. Par peur de la réaction de mon papa, de mon lien avec mon papa. Il y avait vraiment prescription en la matière. Je n'avais pas trop le droit, en fait, d'avoir déjà à cet âge-là un élu, puisqu'en fait, l'élu, c'était mon papa. Et en première, il y a eu un clash, moi, de mon côté, avec mes parents. Mes parents ont divorcé. J'ai retapé et je suis partie faire ma deuxième première S dans l'Eure, dans un pensionnat, puis ma terminale dans un autre pensionnat, et en fait je ne l'ai plus jamais revu. C'était à ce moment-là que je ne l'ai plus jamais revu. Après bac, je suis partie suivre mes études à Paris, et je me suis inscrite à ce moment-là à l'école des Beaux-Arts d'Argenteuil, et là j'ai rencontré un professeur de Beaux-Arts qui allait devenir mon mari, le père de mes deux premiers enfants. Nous sommes restés mariés 8 ans. Et puis il y a eu rupture et je m'installe dans la baie du Mont-Saint-Michel, toujours avec mes deux grands-enfants. Et le seul ami à ce moment-là qui me prête son épaule, c'est Nicolas, qui deviendra mon époux. Il est éleveur de chevaux à ce moment-là. Et bien sûr, de fil en aiguille, Nicolas, nous avons grandi notre cheptel, nous étions naisseurs, beaucoup de poulains à venir. Il était comme logique évident que nous fassions nous-mêmes nos petits poulains, nos bébés, nous en avons eu 2. Voilà. Et en été 2013, alors que je remettais les chevaux dans leur parc, je reçois un coup de fil d'un homme qui me dit « Bonjour Vinka ». Il m'a dit « C'est Stéphane ». En fait, il cherchait un stage d'équitation, il voulait que sa fille... Enfin, c'est pas qu'il voulait, il souhaitait offrir la possibilité à sa fille de galoper sur les plages de la baie du Mont-Saint-Michel. Donc il a cherché sur internet, il a trouvé le haras d'un soir. Nous avions dû rester au moins 2 heures en fait au téléphone à nous raconter nos vies, combien tu as d'enfants, qu'est-ce que tu es devenu. Et nous n'avions qu'une envie, c'était tout de même de nous revoir, puis de se redécouvrir, homme, femme, l'homme qu'il était devenu, et moi la femme que j'étais devenue. Il m'avait tout de suite posé la question de savoir si j'avais toujours mes cheveux longs. Et nous avions convenu, j'avais dit « Ok, avec grand plaisir, viens même avec elle et j'aurai grand plaisir à te retrouver. » J'avais amorcé cette rupture avec Nicolas et c'est en janvier 2014 que vraiment ma rupture s'est faite, divorce, avocat, machin, voilà. Et c'est au mois de juin suivant, alors que j'allais rendre visite à ma maman à Bordeaux, que je lui ai dit « Écoute, je passe par Angoulême, puisqu'il habitait Angoulême. J'aimerais vraiment que nous nous voyions. » Et nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit bar à Angoulême qui s'appelle La Souris Verte. Et je l'ai reconnu immédiatement. Il était devenu un homme. Mais ce même sourire, ce même regard doux, tendre, c'était un grand bonheur là de le revoir. On a conclu un pacte amical, mais un pacte très fort. On s'était dit, on ne se quitte plus. Et quelques semaines après, il me donne rendez-vous à Bordeaux. Je m'étais faite toute belle, j'avais une magnifique petite robe à rose rouge. Et alors que nous avions un boulevard à traverser, Bon, j'ai fait genre... Il y a des bus, j'ai peur, vite, il faut courir pour ne surtout pas se faire écraser. Et là, je lui prends la main. Mais il n'a pas refusé ma main. Et là, je me suis dit, c'est l'amour de ma vie. Il n'est rentré que le lendemain matin. Et c'est là qu'il a rompu définitivement avec sa compagne. Et c'est allé très vite, vraiment très vite. Après, ça a été... Que du bonheur. Nous vivions à distance, mais nous nous accordions le plus de temps possible. On essayait de se voir au moins deux fois par mois, sur les week-ends. Il était évident que je ne pouvais plus me séparer de lui et qu'il fallait que l'on trouve une solution pour nous rapprocher. Et un jour, il m'a parlé de son projet d'acheter une maison. Et cette maison, il me l'a montrée, elle se trouvait dans le cœur du village où il habitait déjà depuis 15 ans. Donc il a juste changé de trottoir. Et c'est là qu'il m'a dit que oui, sa vie était là et qu'il n'en changerait pas. J'ai senti qu'il ne me choisissait pas moi. Nous avons rompu finalement le 14 février de cette année. Il y avait trop d'obstacles finalement à notre union. Mais il n'y a pas que de son côté, le mien aussi, j'ai des enfants. Donc c'était un partage assez impossible finalement à réaliser. Alors peut-être que le rendez-vous est écrit quelque part. Je ne sais pas ce qui se passera. On se retrouvera un jour, peut-être.
I saw you last night. And got that old feeling when you came in sight. I got that old feeling the moment that you danced by.
C'était Le tourbillon de la vie, un reportage de Maud de Carpentier réalisé par Cécile Lafont avec un coup de main de Yaël Mandelbaum. Merci à Roxane Poulain et à Sarah Djeriwi, ainsi qu'aux protagonistes de cette histoire, bien évidemment.
The spark of love.